Oui, bonsoir. Du coup, on est en petit comité là ce soir. C'est ce qu'on se disait. Le sujet est peut-être un petit peu plus étrange dans le sens où il n'avait pas forcément été précisé au niveau d'énoncé. Donc là, l'idée, bon, on va peut-être se présenter. Enfin, je fais rapidement Pierre Durosard, pour ma part Jean-Baptiste Desvaux, Mathieu Garraud et Antoine Finet. Donc on est tous les quatre psychologues cliniciens. Et du coup, l'idée là de cette intervention de ce soir, qui clôt donc le petit cycle qui était proposé autour d'interventions en psychologie clinique, c'est de pouvoir un petit peu et faire la synthèse comme ça avait été évoqué, et essayer de proposer, de développer une réflexion autour de qu'est-ce que la pensée clinique, qu'est-ce que la psychologie clinique. Le micro marche.
Ouais. Oui, il marche.
Et du coup, à partir de, l'idée de proposer ces réflexions-là, à partir de, de questions actuelles qui concernent les praticiens en sciences sociales ou en sciences humaines. Alors hier, c'est vrai qu'on a, terminé, il y avait un débat un petit peu vif, on va dire, autour de, alors qui est hors micro, du coup, ce débat. Mais des questions avaient été soulevées autour de la question de la scientificité de la psychanalyse, autour des méthodes d'évaluation, autour d'une référence peut-être qui pourrait se faire systématiquement par rapport au corpus freudien. Et on peut imaginer que ces choses-là effectivement interrogent à juste titre. Peut-être de préciser du coup que je dirais que la psychanalyse n'est pas forcément qu'une psychanalyse, hein, qu'elle est plurielle, elle est composée d'un ensemble de théories, et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de vous présenter peut-être aussi ce soir, au travers, alors on avait pensé ça autour de deux questions, enfin deux aspects comme ça centraux, sur cette idée d'une clinique militante. Entre autres autour de la question du DSM et de la classification nosographique telle qu'elle peut avoir lieu de nos jours, autour de questions par exemple éminemment polémiques autour de l'autisme aussi, hein. Voilà. Bon, en introduction, peut-être de vous préciser, en tout cas de soulever peut-être des points qu'on va reprendre ensemble autour de ces questions de l'épistémologie de la clinique. C'est-à-dire qu'est-ce que la clinique, qu'est-ce qu'une clinique militante, hein, et il s'agirait de pouvoir définir cette clinique. Alors ça a eu été fait par le passé. La clinique, c'est pas uniquement la question de la psychanalyse, hein, ça je crois que c'est important de l'avoir en tête. C'est aussi la question et surtout la question de la rencontre d'un humain vis-à-vis d'un autre, surtout dans le champ du travail, et de fait. Cette question de la clinique, elle convoque un ensemble de corpus théoriques qui ne sont pas forcément tous de type psychanalytique. Hein. Et ça, je crois que c'est important à être rappelé, c'est-à-dire qu'il y a d'autres théories qui traitent de ces aspects-là, entre autres la systémie, par exemple. Les théories comportementales, à leur façon, peut-être, on pourrait dire, traitent de la rencontre d'un objet partiel à un autre objet partiel, hein, on pourrait peut-être le dire comme ça. Voilà, donc il y a un ensemble de théories, les théories gestaltistes aussi, les théories groupalistes ou dites familialistes, hein, qui s'intéressent à la question des liens, et que l'ensemble de ces théories-là composent une réflexion, une théorisation autour de la question de la clinique. Nous, pour ce qui nous concerne, on est effectivement formés avec un référentiel qui prend essentiellement appui autour du corpus métapsychologique, hein, de la psychanalyse. De la psychanalyse qui est, alors peut-être pour le rappeler comme ça brièvement, ça avait été évoqué les années passées, mais qui est avant tout une pratique, mais pas seulement une pratique. Ça veut dire que si on peut penser la question de la psychanalyse comme un modèle, un peu comme une image d'épinal autour de la cure type avec une forme de psychothérapie, de rencontre, hein, de colloque, on parlait très anciennement, on utilisait ce terme-là, entre deux personnes, l'un qui est assis, et l'autre, le patient, qui est allongé, voilà, et le patient n'a pas accès visuellement à son analyste, vu qu'il est l'analyste est assis derrière lui. Ce dispositif, qui suppose une fréquence quand même assez importante, à l'heure actuelle, il est quand même d'usage de dire que la cure psychanalytique, c'est au minimum 3 séances par semaine, parfois 4 ou 5 en Grande-Bretagne. Freud, lui, de son temps, travaillait tous les jours sauf le dimanche. Donc, il recevait ses patients, ses analysants, 5 séances par semaine. Et seul le dimanche était un jour de grâce pour les patients et sa petite personne. Du coup, globalement, on voit à quel point le dispositif est extrêmement contraignant. Hein. Et de nos jours, quand on pense à la psychanalyse, on n'a pas forcément ça en tête. On imagine bien le côté du divan, mais on n'a pas forcément la représentation de l'importance, hein, de l'exigence que peut avoir ce type de dispositif, tant pour le patient que pour le soignant. Ça peut aussi être quelque chose qui invite à penser la question du soin ou de la prise en charge, qu'elle soit de type psychologique ou social ou éducative, auprès d'usagers, comme on les appelle maintenant, de patients, dans les différents champs dans lesquels, je dirais, la clinique peut être convoquée, en estimant qu'effectivement, il ne s'agit pas simplement de rencontrer un patient une demi-heure, une fois par mois, pour qu'il se passe quelque chose. Hein. C'est-à-dire que si le principe de la psychanalyse se fonde essentiellement sur le transfert suppose qu'il y ait une relation suffisamment continue. À l'heure actuelle, il est quand même reconnu que de considérer que la pensée clinique, elle ne se déploie pas que uniquement dans le champ de la psychanalyse en tant que pratique, hein, mais dans l'ensemble des pratiques soignantes et éducatives et sociales, on pourrait dire. À supposer que les gens soient un petit peu sensibilisés à ça. De fait, la psychanalyse, si à la base elle était une méthode d'investigation des processus inconscients accessibles autrement, c'est comme ça que Freud l'a définie, elle est aussi un corpus théorique qui va être nommé la métapsychologie, et que du coup cette métapsychologie, quand on parle de psychanalyse, bien souvent on ne parle pas vraiment de psychanalyse, on parle surtout, ou aussi peut-être de dire, de métapsychologie. Cette métapsychologie, elle est la dimension conceptuelle de la psychanalyse. Et que cet aspect conceptuel, il convoque un ensemble de théories dont, alors là j'avais essayé de, je n'ai pas bien eu le temps de vous faire, mais peut-être que mes collègues vous en diront d'autres, mais je pensais à Anna Segal, Mélanie Klein, Wilfred Bion, René Spitz, il était quand même psychanalyste, on l'oublie parfois, mais Didier Anzieux dans les quasi-contemporains, René Caes, André Green, McDougall, Gols, Le Bovici, Soulet, Diatkin, Botella, Freiberg, et puis dans les contemporains, on peut trouver, je cite beaucoup d'analyses d'enfants en plus, mais on peut en citer quand même un paquet, René Roussillon, enfin je sais pas, il y en a de théoriciens, il y en a Bernard Chervet, enfin voilà, il y a un ensemble de théoriciens contemporains. C'est vraiment un effleurement là que je peux faire, parce que si vous allez regarder du point de vue des bibliographies, dans les ouvrages actuels, ils sont nombreux. Bien souvent, ce qui nous est évoqué, c'est « mais vous parlez toujours de Freud ». On parle toujours de Freud, non pas dans un rapport fétichisant à la question de la théorie psychanalytique, mais sans doute beaucoup plus dans une référence qui est indispensable pour pouvoir saisir les avancées plus contemporaines. Hein. Ces avancées-là, si on commençait à développer effectivement les théories actuelles, sans doute que vous seriez un peu perdu par rapport à ce qu'on peut amener, parce qu'il suppose d'avoir intégré, je dirais, les classiques. Mathieu rappelait l'autre fois que l'ensemble des théories sont composées de plus de morts que de vivants, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est qui appartient à l'histoire d'une discipline aussi.
Non, c'est pas la théorie, c'est l'humanité.
Oui, mais c'est, je pense pas que l'humanité seule, c'est-à-dire que l'épistémologie, on peut dire, enfin je suis assez d'accord, moi j'entends comme une forme d'épistémologie, où dans toute discipline, la discipline est composée de plus de morts que de vivants, dans le sens où, effectivement, à l'heure actuelle, si on regarde la psychanalyse, qui est une science récente, on s'aperçoit que malgré tout, le nombre d'auteurs vivants, ils sont pas si importants au regard de l'ensemble de ceux qui ont écrit. Et surtout, si on se passe de quelques classiques comme Freud, sa fille, Mélanie Klein, Wilfred Bion, Donald Winnicott, Jacques Lacan, enfin, il y a quand même Dolto peut-être pour des choses un petit peu plus accessibles. Enfin, il y a eu ces noms-là vous parlent, c'est les noms les plus démocratiques. C'est, je dirais, ce sur quoi prennent appui l'ensemble des théories contemporaines. Donc ça supposerait déjà d'avoir ingurgité l'équivalent peut-être de 300 livres pour réussir après à accéder au reste, ce qui n'est pas forcément évident. Donc la métapsychologie comme une forme de corpus conceptuel pour penser la question de la clinique, une clinique qui se déploie aussi donc dans des pratiques qui ne sont pas des pratiques de soins directs ou des pratiques de la cure analytique pure, évidemment, qui peuvent être des pratiques de la psychothérapie, de la rencontre clinique, et la rencontre clinique, elle peut avoir lieu entre une auxiliaire de vie et la personne dont elle va s'occuper, entre un éducateur et un enfant autiste, entre, enfin, voilà. Donc, on voit comment, entre une assistante sociale et qui va faire une visite à domicile et, voilà, une personne qui la sollicite, on voit comment la métapsychologie, elle peut être une ressource pour penser la question de la dynamique psychique des personnes qu'on est amené à rencontrer et notre propre dynamique psychique. Hein, et comment cette rencontre-là entre ces deux aspects peuvent nous permettre d'éclairer les enjeux de la relation. Du coup, la pratique clinique ou la métapsychologie en tant que corpus théorique convoque aussi un champ d'application qui est éminemment vaste. Et c'est sans doute pour ça aussi que la psychanalyse, par le temps, a réussi à gagner un ensemble de territoires, je dirais, qui n'étaient pas à la base réputés être accessibles. Hein. C'est-à-dire que Freud, quand on lui parle des délinquants, il dit, mais ce sont des bons à rien, des malpropres, et en gros, la psychanalyse ne fera rien pour eux, ne fera jamais rien pour eux. Après, il y a eu Auguste Eichhorn qui a quand même commencé à travailler sur la question des délinquants très précocement. Il y a eu un ensemble de cliniciens, d'autres éducateurs qui se sont intéressés à cette question-là sur des problématiques qui, a priori, ne devaient pas être accessibles parce qu'aller allonger un délinquant, enfin, c'est Roussillon qui dit souvent ça, voilà. Hein, si on allonge les gens, c'est aussi, alors Freud disait, par confort personnel parce que coltiner quelqu'un qui le regarde dans le blanc des yeux et qui scrute la moindre de ses mimiques pendant 10 heures par jour, c'est assez pénible. Du coup, c'était aussi une façon de se préserver soi et de pouvoir retrouver une forme de tranquillité dans la relation. Malgré tout, on voit bien comment il y a la question de l'hystérie et de l'agitation ou de l'excitation dans le lien qu'il peut y avoir du côté de l'hystérique et que c'est pas plus mal de l'allonger et qu'il regarde le plafond. Hein. Mais d'allonger un psychopathe, d'allonger un enfant autiste, d'allonger évidemment, voilà, on voit bien comment si la pensée clinique elle reste efficiente, la technique psychanalytique en tant que telle peut pas être utilisée comme ça, de façon brute, sans aménagement. Les premiers aménagements vont aller du côté de la psychanalyse d'enfants et des adolescents, où là on s'aperçoit, c'est Mélanie Klein qui a quand même essentiellement développé ça, que par le jeu et par le dessin apparaît une forme d'association libre qui est à peu près équivalente à celle de l'association libre du côté verbal quand un patient se met à parler sur son divan. Et du coup, à partir de ce premier modèle comme ça qui s'est ouvert, on a pu commencer à soigner des enfants, des adolescents, et puis par la suite des problématiques beaucoup plus graves, là où la psychanalyse était censée s'occuper essentiellement de patients dits névrosés, hein, ou hystériques, elle a rapidement pu essayer d'être aménagée dans ses dispositifs et dans ses fonctionnements pour pouvoir être appliquée à la question de la délinquance, à la question de la grande exclusion, à la question des troubles psychosomatiques, des états limites, voire de la psychose. Hein. Et évidemment, on s'aperçoit qu'en fonction de comment le transfert s'y déploie, on va traiter les choses différemment. Un exemple qui est peut-être radicalement opposé à celui de la cure type standard, la psychose, elle a été pensée sur les modèles psychanalytiques essentiellement autour d'un effet diffraction du transfert. Tout à l'heure, je vous parlais du transfert. L'idée que le transfert se déploiera de façon parcellaire sur des objets partiels comme ça, sur différentes personnes, sur différents, et que en fonction d'à qui le sujet s'adresse, il vient y déposer quelque chose de différent. C'est par le travail de réunion, de synthèse et cet effort de synthèse qui peut s'opérer en institution que du coup on arrive à rassembler les parties dissociées du moi, du sujet psychotique. Vous voyez la conception sur laquelle ça s'appuie, qui est éminemment liée à la représentation aussi qu'on peut avoir du fonctionnement psychique interne du psychotique. Donc ça c'est à peu près valable sur l'ensemble des théories et donc sur l'ensemble des pratiques. Hein. Et effectivement il y a des pratiques qui sont certaines peut-être un peu plus complexes ou troublantes autour de l'autisme, hein, du travail social où là on peut se dire mais qu'est-ce que la pensée clinique peut bien nous apporter. pense que la pensée clinique a des choses éminemment riches à développer en ce sens-là et qui ne sont pas en opposition ou dans le refus de principe avec la question d'une prise en charge de type rééducatif ou, je dirais, de type psychosocial, comme ça se développe de plus en plus. Pour autant, il s'agit aussi de prendre en compte le fait que la psychanalyse, elle suppose le transfert, comme je vous le disais, et que le transfert suppose une fréquence et une répétition du lien dans quelque chose de suffisamment important, et que cette répétition-là, elle ne peut pas avoir lieu si on voit le patient une demi-heure par mois, comme parfois on est amené à le faire dans les lieux de soins, parce qu'on n'a pas, plus de temps qui est alloué pour le faire. Dans l'absolu, quand on regarde du côté des méthodes Teach ou ABA, ce sont des méthodes qui sont censées être appliquées autour d'après entre 30 et 35 heures par semaine, pour ce qui est de l'autisme. Hein. Et en deçà, on va estimer qu'elles sont inefficientes.
C'est quoi Teach et ABA?
Alors, c'est des méthodes, pour résumer, on ne va peut-être pas rentrer dans ces détails-là là, ce soir, mais du coup, qui sont des méthodes pour faciliter la communication, pour renforcer certaines conduites qui sont supposées être socialement adaptées et acceptables, et puis inhiber d'autres conduites, par exemple pour ce qui est d'ABA, qui sont dites inadaptées et qu'on qualifie de troubles du comportement. C'est-à-dire que l'autiste qui a une stéréotypie, il fait comprendre qu'il ne faut pas avoir cette stéréotypie. Il y a un principe de sanction-récompense à la base, qui a quand même évolué. Maintenant, on est moins dans le principe sanction malgré tout, donc on est plus dans une frustration-récompense. Mais voilà, où effectivement, on félicite, on encourage le développement de conduites socialement acceptable ou entendable, et du coup pour essayer de tenter de rééduquer comme ça ce petit humain dont on imagine qu'il n'aurait pas les codes sociaux pour pouvoir faire face au monde. J'y vais très rapidement sur cet aspect-là, on aura peut-être l'occasion de le reprendre, mais de dire que effectivement, si on proposait la méthode Teach ou ABA à une demi-heure, une fois par mois, elle aurait aucune efficience, et que l'ensemble des interrogations actuelles qui peuvent être portées sur de la question de l'évaluation de la psychanalyse sont aussi à penser autour de cette question-là. Ça veut dire que, est-ce qu'on évalue vraiment la psychanalyse quand on a été faire un travail analytique, certains même vont dire une psychanalyse, hein, en ayant effectivement vu un psy une demi-heure, une fois par mois. Je ne suis pas sûr que ce soit ça de la psychanalyse, hein, ça on pourrait appeler ça de la forme de psychothérapie allégée, enfin voilà. Et je dirais, c'est quand même important de prendre cet aspect-là en compte, parce que s'il n'y a pas suffisamment de considération de ces aspects, de ces paramètres un peu techniques, du coup, on s'aperçoit que le transfert ne peut pas se déployer, hein, et que le processus psychique, les processus psychiques qui souhaitent être mis en tension, mis au travail, ne peuvent pas être interrogés suffisamment. C'est important aussi de le dire, parce que je pense que si on avait les possibilités, si la société octroyait les moyens de pouvoir soigner parfois certains enfants, l'ensemble des personnes dont on peut s'occuper, que ce soit dans des thérapies d'enfants, dans le travail social ou autre, avec une fréquence suffisante, je pense que les résultats seraient autres. À l'heure actuelle, par exemple, dans le travail social, une AEMO, une récente statistique sur le département de l'Isère, a été faite, et disant que sur l'AEMO, le temps octroyé par le travailleur social, donc on parle de travailleur social pour dire indifféremment assistante sociale ou EDUXP, hein, sur le travail en milieu ouvert. Le travail social, le temps consacré par chaque travailleur social pour une situation, hein, donc un enfant et sa famille, ou des enfants et la famille, est aux alentours de 1h30. Cette 1h30 par mois correspond à l'ensemble du temps que va octroyer un travailleur social à la situation. C'est-à-dire 1h30 pour rencontrer l'enfant, donc 1h30 par mois pour rencontrer l'enfant, pour travailler avec la famille, pour travailler sur le lien entre l'enfant et la famille, pour rédiger des écrits au juge, pour rendre compte à son chef de service, pour élaborer les choses en travail de synthèse, pour participer à l'analyse de la pratique. Si on synthétise l'ensemble du temps qui est octroyé à chaque situation, il correspond à 1h30 par mois. Vous imaginez, ça veut dire que voilà, il n'y a même pas une heure qui est consacrée à chaque enfant par mois dans une AMMO. C'est assez dramatique, et on peut imaginer que, au même titre, une AEMO suffisamment bonne, on pourrait dire, hein, des choses comme ça, si elle était, on en parle maintenant dans des placements externalisés ou dans ces choses-là, dans des AEMO dites renforcées, je dirais, elle pourrait être suffisamment bonne si on arrivait à ce que l'enfant puisse être rencontré au moins une fois par semaine, voire dans l'absolu, dans l'idéal, deux fois par semaine. Hein, et là, sans doute que des choses pourraient se passer qui seraient bien différentes d'une espèce de pansement sur une jambe de bois. Je parle de ça parce que du coup c'est un aspect éducatif, qu'il y a quelques éducateurs ici ce soir aussi, j'avais ça en tête, et que du coup cet aspect-là, il parle de la clinique, qui n'est pas qu'une clinique du soin, qui ne se passe pas que dans l'hôpital, qui ne se fait pas que par des psys, hein, et ça constitue une pensée clinique. Je pense qu'il est important de soutenir pour l'avenir aussi des prises en charge qui seront développées vis-à-vis de l'ensemble des publics que j'ai pu un petit peu rapidement évoquer. Donc, du coup, l'idée, c'est un petit peu de voir ensemble comment la clinique continue d'exister dans nos sociétés contemporaines, qui n'est plus uniquement du côté de la cure type, même si la cure type persiste et signe en libéral, hein, et de voir s'interroger autour des questions actuelles, par exemple la classification autour du DSM, peut-être proposer de passer la parole à mes collègues.
Moi, je rajouterais bien quelques éléments par rapport à ce que tu as abordé. Parce qu'on parle, depuis qu'on intervient là, depuis 3 ans à l'Université Populaire, on cesse de vous parler de la psychologie clinique, mais ça ne paraît pas forcément évident, son rapport avec la psychanalyse. Ça faisait partie des cours de la première année, on ne va pas revenir là-dessus, mais la psychologie clinique est une discipline qui fait partie des sciences humaines, hein, qui dépend pas d'une faculté de médecine. C'est souvent, on nous confond avec les psychiatres, enfin, toutes ces cohortes de psy. La psychologie clinique, elle est une psychologie appliquée à la clinique, et ça fait à peu près une quarantaine d'années que notre discipline existe. Et c'est un des fruits, hein, de l'introduction de la psychanalyse à l'université. Alors, on a une position aussi assez particulière au sein des sciences humaines. Hein, on a nos collègues qui sont anthropologues, sociologues, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme discipline ?
Philosophes,
qui sont éminemment des intellectuels, hein, qui restent dans leur carcan universitaire. Et puis nous, psychologues cliniciens, qui sommes jetés comme ça dans la société à tenter de... Alors c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais on pourra revenir dessus. Mais en tout cas, c'est un peu les fantasmes qu'on a autour de ça. Enfin, moi, je trouvais que ce métier de psychologue clinicien, il est assez particulier, puisqu'il se situe dans un espèce d'entre-deux, entre l'université, qui est quand même le lieu de pensée, et puis un des lieux de pensée, et puis la société. Voilà, on est situé dans l'entre-deux avec tous les paradoxes que ça peut aussi susciter. Jean-Baptiste, vous rappelez un petit peu la technique psychanalytique, faire du divan. C'est vrai que moi, je pouvais rajouter, mettre un vagabond sur le divan, ça paraît quand même quelque chose d'extrêmement difficile. Aujourd'hui, nous, on se définit comme des psychologues cliniciens d'orientation psychanalytique. C'est-à-dire qu'on ne va pas se ramener dans la rue, enfin pour ma part par exemple, avec un divan à la rue, mais on va plutôt s'accompagner de ce que Jean-Baptiste vous a appelé la métapsychologie. Alors, tu balances comme ça parfois des concepts sans forcément les développer. La métapsychologie, c'est une psychologie qui accepte un postulat qui est celui de l'inconscient. Voilà. C'est-à-dire, c'est une métapsychologie. Ça dépasse...
Théorie-impulsion, complexe d'Oedipe et inconscient.
Ouais, tout ça, voilà. Et du coup, moi, par exemple, quand je vais faire mon travail de rue, je suis accompagné de cette dimension-là. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de l'ordre du langage silencieux, d'une écoute stéréophonique. Enfin voilà, il y a toujours l'idée d'accompagner les personnes qu'on rencontre là où ils sont, mais avec l'idée que dans un comportement, peut-être que quelque chose se dit, autrement que par des mots. Enfin, là, on revient tous du boulot, hein.
Oui,
tous. Moi, cet après-midi, j'étais faire une visite à domicile. J'en suis encore pas mal emprunt, alors c'était à Saint-Étienne, et j'ai visité des lieux, hein, et ça me parlait sans cesse. Hein. J'ai eu un besoin de me décontaminer, parce que j'ai l'impression que tous les éléments qu'il y avait dans cet appartement, qui étaient insalubres, incurique, avec des effets de mise en scène, voilà, tout ça, ça parlait de la personne qui habitait cet appartement, qui, moi, me permettait après, va me permettre, enfin j'espère en tout cas, de pouvoir rencontrer cette personne de manière différente comme on a pu jusqu'à maintenant la rencontrer. Alors, moi, je vous parle aussi d'une position qui est assez, assez particulière. On a eu un petit débat la semaine dernière quand on a tenté de travailler l'intervention. Moi, je travaillais à l'hôpital général. Lors de ma présentation, je vous avais parlé de Louis XIV qui avait mis en place les hôpitaux généraux. dans l'optique d'en faire des asiles. Aujourd'hui, on n'a plus tout à fait affaire aux asiles, on a affaire à autre chose, à l'hôpital entreprise. Enfin, l'hôpital est en train de devenir une entreprise. L'une des dernières lois, qui, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin, celle que Bachelot a mis en place,
HPST,
qui nécessite la tarification à l'acte. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée des hôpitaux, hein, c'est de gagner de l'argent face à la concurrence du privé. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des spécialités qui nous mettent en dette. Hein. Plus que d'autres, la psychiatrie en fait partie. C'est-à-dire que la psychiatrie, ça rapporte pas d'argent. Au contraire, ça a plutôt tendance à creuser le trou de la sécu. Et une autre problématique aussi fait perdre de l'argent à l'hôpital, c'est la question de la précarité. Et moi, je travaille dans une équipe qui est assez particulière, qui s'occupe à la fois de la psychiatrie et de la précarité. Donc on est doublement un peu stigmatisé au sein de l'hôpital, c'est très compliqué, voire triplement stigmatisé, puisqu'on est une équipe mobile. C'est-à-dire qu'on passe la plupart de notre temps à l'extérieur de l'hôpital, dans la cité. Moi, je voulais vous parler aussi, Jean-Baptiste avait introduit l'idée, du DSM. Alors, peut-être que tout le monde ici ne sait pas ce que c'est que le DSM. La traduction anglaise, c'est...
Diagnostic Statistical Manual Disease, Mental Disease.
En fait, c'est un manuel
des
troubles mentaux. Depuis le premier, je crois qu'il a eu lieu en 81, hein, DSM-1. On en est aujourd'hui pratiquement au cinquième. Et au fur et à mesure des années du remaniement de ce manuel-là, on arrive aujourd'hui à un ouvrage qui va sortir bientôt, hein, le 5, qui est complètement athéorique, ahistorique, arelationnel. C'est que toutes ces dimensions qui font... d'un sujet à un sujet, mais elles sont aujourd'hui complètement absentes de ce manuel-là. Alors, je vous ai amené un petit livre qui est un peu un pamphlet sur l'avènement de cet outil-là pour la psychiatrie moderne, qui s'appelle L'homme selon le DSM. C'est un médecin psychiatre, il est pédiatre, psychanalyste. C'est un ouvrage un petit peu à part parce que finalement il critique beaucoup ses collègues, hein, ou ses futurs collègues, dans un ton qui est assez... assez mordant. Oui, c'est Maurice Corcos. Si je vous cite pas le nom de l'auteur, ça va être problématique. Il dit que finalement l'avènement de cet ouvrage-là, hein, qui va finir par être un ouvrage de référence pour la psychiatrie de demain, ben, elle fait symptôme un petit peu dans le monde actuel. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le malade sera peut-être accueilli à l'hôpital général en psychiatrie dans une dimension où sa subjectivité sera complètement évidée. Ça pose problème, ça, véritablement, pour toutes ces questions cliniques. Il va même plus loin, il dit que c'est un instrument qui est, pour les médecins, phobique de la clinique. Hein. C'est-à-dire que ça peut être véritablement un outil qui empêche de penser la relation et les enjeux relationnels. Parce que Jean-Baptiste vous parle beaucoup du transfert, mais je crois qu'il n'y a pas pire, hein, que de vivre le transfert ou le contre-transfert. C'est quelque chose d'extrêmement pénible à vivre, quand on est à la fois analysant, c'est-à-dire sur le divan, comme quand on est... analyste ou psychologue face à son patient. On vit parfois des choses qui sont très très compliquées. On ne sait pas si ça ressort de nous, ou ressort de la relation. Ça demande tout un travail de décondensation des enjeux relationnels. Et ça, le DSM, finalement, il tente à évider complètement ces enjeux, les enjeux de la relation. D'autant plus que ce DSM va s'accompagner aussi d'une participation assez massive des laboratoires pharmaceutiques, qui ont aussi tout un intérêt à participer à un tel ouvrage, puisque derrière les laboratoires pharmaceutiques, il y a tout un business, hein, un lobbying. Cet outil nous vient des États-Unis, hein, donc il va forcément arriver en France. Aujourd'hui, l'idée, il est même déjà là, bien installé, l'idée d'une clinique militante, c'est quand même... Bon, l'avènement du DSM et toute la pensée qui accompagne le DSM paraît assez inéluctable, hein. Avec la loi Bachelot, tarification à l'acte, diagnostiquer à tour de bras, parfois assez trop rapidement, sans avoir véritablement rencontré le patient qu'on a en face de soi. Je pense qu'au sein de l'hôpital, moi je commence à le voir un petit peu, la tentation est grande, hein, quand même, de stigmatiser les patients qu'on rencontre, mais il y a toujours aussi, hein, une volonté de militer, hein, de se dire que il y a quelque chose qui est important dans le travail clinique, c'est la question de l'implication. Moi, j'aime bien opposer, alors c'est pas de moi, hein, c'est de Gustave Guillaume qui a été repris par Henri Maldinet, puis après Dominique Touré, qui sont à la fois le premier Gustave Guillaume est un écrivain, je crois. Henri Maldinet est philosophe et Dominique Touré est psychiatre, psychanalyste. Ils aiment bien opposer l'idée de l'implication à l'idée d'explication. Hein. C'est-à-dire que c'est, quand on rencontrait l'autre, c'est pas expliquer son mal. Hein. Ça, c'est plutôt un outil qui est proprement, on va dire, fétichique. Hein. Ça permet de bien se protéger des enjeux relationnels. L'idée du travail clinique, hein, c'est l'idée de s'impliquer. S'impliquer dans le pli émotionnel de la personne qu'on rencontre. Et parfois, l'accompagner comme un pérégriner avec le patient dans ses modalités de souffrance. Moi, c'est ce que je fais sans cesse hein, dans mon travail. On a beaucoup l'idée, comme c'est une espèce d'image d'épinal qui fait que le psychologue, il est derrière son bureau. Il fait enfin, des choses comme ça. Parfois, ça nous dessert un petit peu. Les nouvelles générations de psychologues aujourd'hui, bah, ils sortent de leur bureau, ils vont dans les associations, dans les ITEP, dans les services de néonates, dans les services scolaires. Enfin, ils sont à peu près partout. Hein, les psychologues, ils ont envahi l'ensemble de l'espace social, au risque hein, de toujours être stigmatisés aussi. Hein, parce que quand on va voir un psy, c'est forcément qu'on est fou. Alors, il y a toujours un temps pour déconstruire cette idée-là. Et il est nécessaire quand même de faire une espèce d'éloge, alors je sais pas, de l'itinérance ou de l'errance ou de la co-errance pour rencontrer là où nos patients sont. Moi, il m'est arrivé souvent d'aller à domicile, d'aller sur des bouts de trottoir, rencontrer des sujets en souffrance, parce que bien évidemment, ils vont pas rentrer à l'hôpital, ils vont pas se mettre en face de vous, ils vont vous dire. Je vais pas bien, j'ai besoin de travailler ce qui va pas chez moi. Parce qu'ils le mettent pas en mots, mais en actes. C'est-à-dire qu'il y a tout un langage de l'acte aussi, du comportement, voire des gestes violents. Ça, c'est plutôt une problématique qui est chère à Claire. Et que si on va pas sur le lieu du sujet, on le rencontre pas. Et puis il y a aussi, comme je vous l'ai dit, l'idée de l'implication, et que cette idée de l'implication, elle est pas évidente. Scoltiner la souffrance de l'autre, ça fait souffrir. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'idée de souffrance tend à être complètement évacuée. Hein. Je me souviens, à l'intervention d'Antoine, après la discussion, il y avait une question qui avait été posée sur y a-t-il plus d'enfants aujourd'hui qui sont en dépression avec l'idée que la dépression, c'est une maladie. Alors que beaucoup d'auteurs aujourd'hui nous disent hein, qu'il y a une forme d'éloge de la dépression, qu'elle n'est pas du registre de la maladie, qu'elle est un moment de grand remaniement psychique, peut-être qu'il faut l'accompagner, mais qu'il n'a rien du pathos ou du pathologique. Aujourd'hui, dans la société, dans le monde dans lequel on vit, hein, la question de la souffrance est quelque chose qui est évacué. Hein, parce que le modèle de l'homme normal, hein, c'est-à-dire l'homme qui est assujetti un peu aux normes, et l'homme normal, il a l'angoisse du pathologique. Le SDF, hein, comme je vous le parlais, la figure du SDF, hein, pas la personne qui est en situation de sans domicile fixe, mais la figure telle qu'on la porte, lui, il porte en lui-même l'idée de pathologique. L'hôpital change beaucoup. Il y a quelques années, j'avais fait une intervention sur la psychiatrie, en marge de la psychiatrie. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, à force de catégoriser tous les patients dans des petites cases, ça a tendance aussi à exclure beaucoup d'autres patients. Alors ces patients, on les rencontre où ? Eh bien, on les rencontre dans la rue. Aujourd'hui, moi, c'est l'essentiel de mon travail, en sachant que je suis confronté aussi à une problématique qui est celle de l'accès aux soins, parce que bon nombre de services opposent l'idée de la souffrance qu'une médecine pourrait soigner à l'idée du social. C'est-à-dire c'est pas psychiatrique, c'est social. Voilà. Il y a toujours cette opposition-là, il y a vraiment une difficulté aujourd'hui à pouvoir accompagner et accueillir tout un chacun dans sa dimension, parce qu'on est à la fois des hommes psychiques, des hommes biologiques, des hommes sociaux, et c'est compliqué aujourd'hui de travailler avec cette idée qui est récurrente à l'hôpital, qui est d'opposer à la fois un homme psychique, un homme psychiatrique, puis un homme social. Les clivages sont assez forts, J'avais essayé pendant mon intervention d'en dégager les enjeux. L'idée d'une clinique militante, moi, il me semble que c'est une bonne partie quand même d'un travail clandestin. Hein. Il peut y avoir véritablement de soins psychiques que dans une certaine forme de clandestinité. Alors je ne vous parle pas là du point de vue administratif, hein. Mais c'est-à-dire de pouvoir aussi, dans le respect d'une subjectivité, celle des patients qu'on accueille, pouvoir préserver le patient de tous les enjeux de transparence qui existent aujourd'hui à l'hôpital. Hein. Je vous ai parlé de la tarification à l'acte. La tarification à l'acte, elle est accompagnée aussi d'instruments informatiques comme CrystalNet, comme GAM, où on peut retrouver à n'importe quel endroit de l'hôpital le dossier complet du patient. Et ça, c'est compliqué. Les patients sont aujourd'hui transparents. Il est compliqué de préserver quelque chose de l'ordre de l'intime, comme tu avais pu l'aborder. Et que si on ne préserve pas un noyau d'intimité, le patient, on passe à côté. Je ne sais pas si parmi mes collègues là, veulent prendre un petit peu la suite. On avait décidé de faire une intervention un peu comme ça, en co-créant ensemble.
Je voulais juste dire un mot avant de passer la parole à Claire, de dire que sur ces innovations, pour rebondir sur ce que tu évoquais, ces innovations dispositifs, souvent on pense qu'elles ont quelque chose d'extrêmement contemporain. Et si on nous reproche souvent de parler de Freud, c'est aussi parce que Freud, le premier, a développé la talking cure, hein, la cure de la parole, mais pratiquait aussi, sans l'avoir théorisé, la walking cure, hein, et la cure en marchant. Et ça, je crois que c'est important à rappeler, parce qu'il pouvait se balader dans le parc avec ses patients. Il y a certains patients qu'il a essentiellement rencontrés comme ça. Il allait se balader pendant une heure avec eux. Et là, ça nous fait penser à la pratique que Mathieu pouvait évoquer. Je pense aussi à Winnicott, qui écrit comment il a pu essayer de traiter un petit garçon il avait moins d'une dizaine d'années, qui était plutôt très agité, on dirait qu'avec des troubles du comportement ou une tendance antisociale, et en l'accueillant chez lui, avec sa femme, et en mettant une sonnette particulière qui avait un timbre de son différent de sa sonnette habituelle, et du coup, quand le gamin faisait une crise, il le foutait dehors, puis il disait, bah, tiens, voilà deux livres, et puis tu reviendras, tu sonneras quand tu seras calmé. On pourrait trouver ça complètement fou parce que c'est Winnicott, parce que c'est Freud, parce que c'est censé être des gens qui, ont participé à la création d'un cadre psychanalytique, et on voit que déjà, là, il y avait des aménagements. Ferenczi aussi, entre autres, va aménager autrement, après plus sur des questions techniques que sur des questions de dispositifs, mais on voit comment, dès les premiers psychanalystes, il y a eu cette question des aménagements qui s'est posée pour faire face à des patients dits limites ou en marge, en tout cas, de ce qui était habituel de rencontrer.
Oui, moi je voulais revenir sur la question de ce que Mathieu a développé sur la tarification à l'acte, parce que finalement, enfin, on en parle sans doute que vous en avez entendu parler aussi dans les médias, parce que au sujet de cette loi, ça a été évoqué, mais peut-être qu'on peut préciser de quoi il s'agit, hein, et donc ce qu'implique l'introduction, on va dire, du DSM au sein de la psychiatrie. Ça implique quoi? Ça implique qu'en fonction du diagnostic qu'on pourra faire aux patients qu'on aura rencontrés et en fonction des statistiques qui auront été établies à propos de la maladie dont il serait affecté, l'hôpital serait doté d'un certain prix pour traiter ce patient. Donc c'est-à-dire que le DSM et toute la théorie qui l'accompagne, ça vise à rentabiliser les pratiques de soins en fonction d'un référent qui repose essentiellement sur les statistiques. Hein, et là, pour renvoyer au débat qu'on a eu hier hors micro après mon intervention, c'est là qu'on voit aussi l'usage qu'on peut avoir aussi de ces techniques dites scientifiques qui recourent à la statistique. On voit qu'on peut aussi les utiliser de façon dogmatique, voire totalitaire, pour en venir à servir une manière tout à fait comment dire, qui s'inscrit dans le libéralisme le plus pernicieux, le plus pernicieux, le plus cruel, qui viendrait à vouloir rentabiliser la santé et le soin psychique. Donc, par exemple, selon ces statistiques, alors moi je les connais pas, hein, on établirait que tel type de patient serait efficacement soigné en temps de fois, en temps de séance, et donc, d'une certaine manière, ça impliquerait une uniformisation des pratiques d'abord, et ça obligerait les praticiens à pratiquer de la même manière, enfin en tout cas à se référer à une espèce de dogme qui dirait comment est-ce qu'il faut pratiquer en fonction du patient auquel on a affaire. Donc cette question-là, c'est pas simplement une question de d'évaluer un peu la population qui s'adresse à la psychiatrie et de savoir un peu de quels mots seraient affectés les Français, mais au-delà de ça, c'est quand même une question économique, hein, qui est extrêmement dangereuse pour la question à la fois des libertés et puis des libertés individuelles, hein, des sujets qui s'adresseraient à la psychiatrie, mais aussi des libertés des soignants de pratiquer un soin comme ils l'entendent. Et donc là, on pourrait faire le pont aussi avec la question de ce que défend la pensée clinique issue de la métapsychologie psychanalytique, à savoir un certain point de vue de l'humain, parce que c'est quand même ça l'objet de notre intervention. Et effectivement, si la psychanalyse est tant décriée aujourd'hui, c'est que au regard de ces exigences économiques qui sont largement imprégnées d'un esprit libéral ou capitaliste, effectivement, c'est une méthodologie qui coûte cher, une pratique de soins qui est donc onéreuse et surtout qui, sans doute, dérange, on pourrait dire, les institutions dans la mesure où le psychologue clinicien qui s'inspire d'une pensée psychanalytique est celui qui va sans cesse venir interroger les pratiques de chacun, à commencer par la sienne, mais aussi les pratiques institutionnelles. Et ça, sans doute que c'est extrêmement compliqué de pouvoir remettre en question nos pratiques. Parfois, on peut avoir envie de, comme diraient les jeunes, de ne pas se prendre la tête et de ne pas réfléchir trop à ce qu'on est en train de faire. Le psychologue clinicien, encore une fois, qui s'inscrit dans une référence à la psychanalyse, est sans cesse en train d'interroger les cadres et les pratiques institutionnelles, et c'est sans doute pour ça que il est difficilement tolérable au sein des institutions. On pourrait dire que c'est un empêcheur de penser en rond. On pourrait dire ça comme ça. Et puis c'est extrêmement onéreux aussi, parce que Jean-Baptiste le rappelait, c'est une pratique de soins qui demande à être intensive, hein, et qui repose aussi sur le fait que sur le postulat en fait que pour être efficiente cette thérapie, elle doit comprendre un travail de réflexion, d'après-coup, de supervision du côté du psychologue, et c'est-à-dire un travail où il réfléchit à sa pratique, il réfléchit à ce qui se passe dans le transfert avec le patient, et donc ça coûte de l'argent. Et concrètement, tout ça ne peut pas être quantifié en actes, hein, puisqu'on y revient, hein, la question de la tarification à l'acte fait que il y a un certain nombre d'actes qui va être pris en compte par cette tarification, et même il y a toute une codification qui exclut de ça, par exemple, tout le travail de supervision, le travail de formation, mais même aussi le travail de réunion, qui parfois ne rentre pas en compte dans ce travail de codification, et donc ne rapporte pas d'argent à l'institution ou à l'hôpital concerné par cette pratique de codification et de tarification à l'acte. Et donc ça pose de vrais problèmes, c'est-à-dire que ça serait des soignants, des acteurs pour reprendre la question relative à l'acte, c'est-à-dire que le soignant, ça serait quelqu'un qui pratiquerait des actes, mais des actes du côté du patient, et donc même par exemple si le patient ne vient pas, ça ne rapporte pas d'argent à l'institution. Alors que toute la pensée psychanalytique repose aussi sur le fait que quand par exemple un patient va être absent à sa séance, ça a un sens, que le psychanalyste ou le psychologue qui s'inspire de cette pensée-là va être à la disposition du patient psychiquement, va réfléchir au sens que ça peut avoir que cette absence, et quelque part il va fournir un travail, alors un travail qui ne représentera pas un acte, mais un travail psychique qui participe pleinement du travail thérapeutique. Et tout ça, tout ce que finalement la psychanalyse pourrait inspirer de pratiques thérapeutiques au sein des institutions, finalement tout ça, ça ne peut pas rentrer, être pris en compte dans cette conception. Et c'est pour ça qu'on serait très vite amené à considérer dans les institutions, quand on est du côté d'une logique de la rentabilité, et puis un peu, quand on gère l'hôpital comme un gestionnaire d'entreprise, on pourrait être amené à considérer que ça ne rapporte pas d'argent, et donc que ça ne sert à rien, voire que ça coûte. Mais tout ça pour dire que ça repose quand même la question de savoir si la santé doit être rentable. Et alors, tout ça pour dire du coup que quand même ça renvoie... Peut-être je vois Jean-Baptiste qui...
Non, je vais juste ponctuer une petite blague. Freud, qui précise dans ses écrits techniques, il dit à quelqu'un, parce qu'il aimait bien toujours imaginer que quelqu'un lui posait des questions, il imaginait bien, il aimait bien, et il se plaisait à s'imaginer en tout cas des détracteurs à ses écrits. Donc à chaque fois, il disait, mais sans doute conviendra m'opposer l'idée que si ça, ce à quoi je répondrai, voilà. Et vis-à-vis du coup, la psychanalyse dans ce que tu évoques, il dit, bien sûr, on pourrait me dire que la psychanalyse coûte très cher et que c'est un investissement énorme. Et ce à quoi je répondrai, il n'est rien de plus coûteux que la maladie ou la sottise. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus.
Alors, je vais avoir du mal à faire le lien. Vous m'excuserez si ça vous semble sans rapport. Simplement, tout ce qu'on disait là m'évoquait, et Jean-Baptiste l'a abordé brièvement tout à l'heure, la question de la façon dont on pourrait, cette idéologie, parce que il y a une idéologie et un certain dogmatisme derrière ces préconisations qui se voudraient, aller dans le sens d'une amélioration des finances de la sécurité sociale. Derrière tout ça, il y a une véritable conception de ce que c'est qu'à la fois le soin psychique et de ce que c'est que même la vie psychique, j'ai envie de dire. Et on voit bien comment, dans ces logiques-là, qui sont du côté peut-être un peu d'une inspiration, en tout cas qui s'inscrivent dans une société on dit capitaliste, néolibérale, on voit comment il y a aussi un modèle de ce que ça serait l'être humain qui correspondrait un peu à ce modèle économique. Et ce modèle-là, ça serait un être humain qu'on dessaisirait en fait de sa dimension psychique et inconsciente, tout ce que Freud a eu le génie quand même de découvrir et de développer et de soutenir parfois de façon fort conflictuelle à l'endroit de ses contemporains. Finalement, c'est l'idée que cet homme moderne, cet homme contemporain, ça serait, pour reprendre les termes d'une chanson de Noir Désir, ça serait un homme pressé, un homme donc qu'il faudrait remettre sur les rails de sa rentabilité individuelle pour qu'il soit lui-même, qu'il soit le plus actif possible, qu'il à son tour, qu'il soit acteur de la vie sociale et donc rentable. Et tout ça ne souhaite pas s'embarrasser des méandres psychique d'un être humain qui serait aux prises avec son inconscient, on va dire, et ses manifestations dans ce que ça peut représenter d'une forme d'inhibition, voire peut-être de handicap aussi, pour s'adapter à la vie sociale. Et si j'emploie le mot de handicap, c'est sans doute pas par hasard, puisque aujourd'hui on observe vraiment, on va dire, l'avènement de cette notion. Aujourd'hui, les gens n'en sont plus souffrants. La question de la souffrance psychique est un peu décriée, ou en tout cas mise de côté, au profit d'une notion tout à fait intéressante et même singulière. C'est quand même la question du handicap. Donc aujourd'hui, tout le monde se réclame du handicap. Alors, par exemple, on voit pour les enfants qui sont atteints de ce qu'on appelle entre guillemets, les troubles du comportement, ce qui, vous le constaterez comme nous, ne veut rien dire. Enfin, sinon, enfin, ça ne constitue qu'une description, j'ai envie de dire, objective. En général, même quand on souffre psychiquement, notre souffrance psychique s'exprime par notre corps et donc souvent de manière un peu inadaptée ou désadaptée aux exigences sociales. Et donc, on aurait au fait d'être classé dans cette catégorie des troubles du comportement. Donc, on voit bien comment le DSM, c'est quand même du côté d'une conception comportementale qui vide un petit peu l'être humain de sa dimension psychique et inconsciente. Et donc, effectivement, qu'on soit autiste, qu'on soit délinquant, finalement, on pourrait avoir des troubles du comportement. Tout ça pour dire... Je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup, j'ai oublié... J'ai oublié. Tout ça pour dire que, voilà, sur la question d'un certain point de vue de l'humain qui pourrait être défendu par une approche clinique... C'est donc une approche qui soutiendrait l'idée que l'être humain, ça n'est pas cet homme pressé qu'on veut nous faire croire, cet homme rentable qui doit produire, et puis on se fiche à peu près éperdument de savoir s'il souffre. Hein, finalement, c'est un peu un homme-machine, c'est Charlie Chaplin dans les temps modernes, quoi, quelque part. Eh bien, voilà, cet homme pressé, la psychanalyste dit que il souffre et prétend, ou en tout cas essaye de le soigner de façon un peu différente et peut-être de le sortir de ce carcan qui a grande presse aujourd'hui, à savoir celle du handicap. Voilà, je reviens à ma question. Les troubles du comportement qui sont considérés maintenant, les enfants qui souffrent de troubles du comportement sont pris en charge par la MDPH, la Maison des Personnes Handicapées. Quand même, ça dit beaucoup de choses, de comment on considère une souffrance psychique qui s'exprimerait par une instabilité, une agitation, éventuellement de la violence. Voilà, on considère que c'est un handicap, parce qu'effectivement, ça fait de ces enfants ou de ces adolescents des inadaptés. Hein, ils ne sont pas aptes à être au sein d'une société. Voilà, et du coup, là-dessus, je voudrais un peu détailler la question de l'autisme, puisque Jean-Baptiste l'a évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, l'autisme, au même titre que la question des troubles du comportement, tendrait à être traité du côté de la question du handicap. Hein, on développe de plus en plus des théories du côté de gènes, de l'autisme, etc. Alors effectivement, les recherches en la matière ont le mérite d'exister et c'est sans doute important qu'on les fasse. Néanmoins, faut-il pour autant, déposséder ces sujets de l'hypothèse ou même de l'idée qu'ils pourraient être dotés d'un inconscient comme tout être humain. Parce que quand même, d'aller dire c'est génétique, et la psychanalyse n'a pas à se mêler du soin des autistes puisque c'est une maladie génétique finalement qui conduit le sujet à être entravé dans son adaptation à la vie sociale et donc qui nécessiterait une rééducation, une réadaptation, qui quand même, il faut le dire, par des méthodes, là encore, américaines pour la plupart, qui tendent, et elles le revendiquent comme telles, à conditionner des sujets quand même. C'est pas rien de faire un tel postulat, même si effectivement sans doute que ça produit ses effets, hein, et peut-être qu'on peut penser que effectivement qu'un enfant autiste puisse accéder au langage, puisse accéder à certains codes sociaux, ça lui rendra service, je ne sais pas, mais en tout cas ça rendra service à ses parents et puis à la société qui a quand même du mal à tolérer la différence et ce qui lui renverrait, hein, au même titre que ce que disait Mathieu tout à l'heure, comment le SDF peut être aussi comme ça une figure aux marges de l'humanité et qui serait à la fois intolérable pour cette même humanité. En tout cas, voilà, il faut quand même dire que ces techniques comportementales, elles reposent sur ce postulat du conditionnement, voire du dressage, même si, après, effectivement, elles ont leur efficience, et que c'est pas rien de partir de ce postulat quand on cherche à traiter, à soigner des sujets. Et aujourd'hui, vous avez sans doute entendu toutes les polémiques autour de la question de l'autisme, qui partent sans doute d'une certaine dérive ou d'un certain dogmatisme qu'a pu avoir la psychanalyse à l'époque où elle était dominante, on va dire. Effectivement, il faut reconnaître sans doute les, les erreurs ou les échecs qui ont été faits par les approches psychanalytiques, notamment celle de culpabiliser, en tout cas de prétendre que l'autisme était dû à une défaillance maternelle. Alors, il est important que la pensée psychanalytique puisse se saisir de ses erreurs et ou peut-être de ses errements. Et puis, voilà, c'est aussi pour ça que c'est une pensée qui est sans cesse en mouvement et qui se refonde perpétuellement parce que effectivement, il faut pouvoir prendre en compte les erreurs qu'on a fait et progresser dans la conception de l'être humain auquel on se confronte et dont on prétend vouloir le soigner. En tout cas, décrier aujourd'hui les méthodes psychanalytiques au nom des erreurs du passé, c'est aussi, et il ne faut pas l'oublier, d'une certaine manière, déposséder les sujets atteints d'autisme d'une dimension de leur vie psychique, une dimension simplement de leur subjectivité, qui consiste à dire que, comme tous les autres êtres humains, ils sont dotés d'un inconscient, d'une vie psychique et affective, et qu'ils souffrent. Voilà, la psychanalyse ne prétend pas dire autre chose, j'ai envie de dire que c'est à la fois modeste et ambitieux, et que simplement, peut-être plutôt que d'opposer les points de vue, on peut essayer de voir comment ça peut se compléter, et qu'il ne s'agit pas d'entrer dans une guerre, dont les enfants, finalement, seraient un peu les objets, mais en tout cas, certainement pas les sujets. Voilà, il faut quand même dire qu'aujourd'hui, contrairement à certains groupes de parents d'enfants autistes qui souffrent, il faut aussi le reconnaître, et quand on est dans une telle véhémence, c'est aussi qu'on souffre et que sans doute on n'a pas rencontré non plus des gens qui nous ont aidés à prendre en compte cette souffrance. Toujours est-il que face à cette véhémence et parfois à la violence de ces groupes qui deviennent presque des groupes de lobbying, puisque on voit qu'ils ont un impact fort et qu'ils ont eu notamment un impact sur des directions de l'ARS, concernant des pratiques recommandées et non recommandées, je ne sais plus précisément comment c'était formulé. En tout cas, la psychanalyse a été reconnue ou enfin décrétée comme non recommandée, en tout cas pas la plus performante, non consensuelle, voilà, je ne trouvais plus le terme, pour traiter les enfants et les sujets autistes. Donc il s'agit bien de dire que se référer à la théorie psychanalytique, c'est défendre un certain point de vue de l'humain, ne pas chercher à n'imposer que celui-ci, évidemment, ne pas être dogmatique, ça paraît évident, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, les généticiens eux-mêmes, en fait, tendent à nuancer considérablement leurs découvertes, dans la mesure où ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un gène responsable d'une maladie, mais qu'il y a une espèce de faisceau de gènes qui pourrait, dans certaines circonstances, et notamment sous l'influence d'un environnement, exprimer la maladie. Ça redonne quand même sa place à la complexité de l'être humain et au fait que, effectivement, ça n'exclut pas l'approche ou la théorie psychanalytique à l'endroit de ces sujets. Voilà. Je pense que on peut s'arrêter là sur la question.
Alors, ça aurait pas mal de choses à dire après les différentes interventions de mes collègues, mais ça va être compliqué d'avoir un fil conducteur qui reprendrait un peu tous ces éléments. Je vais faire de mon mieux en étant assez bref, puisque l'heure d'un échange avec la salle est bientôt venue. Donc sur la question déjà de la scientificité, donc d'après ce que j'ai senti, puisque c'est au moment où je partais hier, le débat semblait s'amorcer et promettre d'être assez houleux, je ne sais pas. Donc la scientificité, je pense qu'il ne faut pas négliger de rappeler que ça s'inscrit quand même dans une forme d'idéologie sociale qui a quand même cours depuis des décennies, voire même des siècles. Ça prend source au niveau de la Renaissance puis des Lumières, c'est-à-dire qu'on a opposé à une vision religieuse du monde la puissance de la raison en s'appuyant évidemment de plus en plus sur la question de la science qui a émergé, qui a permis tout un nombre de progrès techniques divers et variés. Mais cette science émergente s'est quand même accompagnée d'une forme d'idéologie qui l'a accompagné, Et cette idéologie s'exprime quand même régulièrement, notamment à cet endroit-là, parce que quand on vient demander si la psychanalyse est scientifique, on vient demander si la psychanalyse est sérieuse. Je crois que c'est aussi simple que ça. C'est que
c'est quantifiable.
Oui, c'est ça. C'est que là, ça passe par des chiffres. On est dans quelque chose qui, ouais, une société qui tendance à fragmenter, à faire des batailles d'experts pour tout. Enfin, même, on l'a bien vu avec nous, même pendant le débat présidentiel, ça a été une bataille de chiffres, une bataille de pourcentages divers et variés, qui montre bien que c'est une question d'expertise qui vient se poser. Pour tout et n'importe quoi, finalement. Et la question de la prise en charge de l'humain vient aussi se présenter sous la question est-ce que c'est scientifique, est-ce que c'est pas scientifique. Alors c'est vrai que en France, je pense que la plupart des gens rencontrent d'abord Freud en cours de philosophie. Et la question de la philosophie, il me semble que c'est pas parce que c'est pas scientifique que c'est à négliger, que c'est à mépriser, et que la dimension du point de vue de l'humain reste extrêmement importante dans le sens où la spécificité de la psychanalyse, c'est-à-dire de la découverte freudienne, au-delà même de toutes les ramifications, des premières théories, etc. qu'il y a eu, c'est la question de l'inconscient. C'est la question que l'homme a une part qui échappe au niveau de la relation, qui ne peut pas se connaître lui-même, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il n'est pas quantifiable. Il ne peut pas être réduit à un certain nombre de processus visibles, que l'activité psychique, ça ne se mesure pas dans les IRM et les scanners, ça ne suffit pas à décrire la complexité du processus qui est en jeu, et que cette dimension-là, c'est vrai que la psychanalyse vient quand même marquer une sorte de discordance par rapport à un discours social qui voudrait que les choses soient très automatisées. Alors c'est vrai que nous, ensuite, au niveau du champ social, en tant que psychologue clinicien, on se retrouve en effet à être pris entre deux feux, finalement. Il y a le psychologue clinicien qui est là pour défendre la question de la pensée, c'est-à-dire que mes collègues en ont bien parlé tout à l'heure, pour pouvoir bien comprendre les enjeux qui concernent chaque patient, mais il faut du temps, il faut libérer un peu de temps pour pouvoir penser, il faut libérer un peu de temps pour revenir même dans des cadres qu'on appelle de supervision, d'analyse de la pratique, où c'est à l'aide d'un tiers, il y a quelqu'un qui vient nous aider à appréhender une situation avec tous ces éléments qui justement nous échappent parce qu'ils sont les fruits du travail de l'inconscient. Et cette dimension-là, elle reste en conflit avec la dimension technicienne. Parce qu'en tant que psychologue, on est aussi censé faire des actes. Et ces actes, on est sans cesse convoqué au niveau de la technique. Et c'est vrai que la question de l'idéologie, idéologie du soin, idéologie... Alors, la psychanalyse permet, justement, nous offre une voie extrêmement intéressante pour ouvrir des dispositifs de pensée. Dans certains cas, il ne faut peut-être pas le négliger, il faut aussi pouvoir le dire, c'est que la psychanalyse, c'était plus vrai à une époque où elle était un peu plus triomphante qu'aujourd'hui, où on est plutôt sur une position défensive. Il y a aussi une psychanalyse qui a pu virer idéologie aussi, c'est-à-dire qu'il y a une époque où... on avait sans doute tendance à systématiser un certain nombre de choses, et du coup à fétichiser et les dispositifs, et les pensées, les théories, et que on avait parfois tendance. Et ce qui se passe, c'est que quand on fétichise, quand on se contente de finalement figer les choses sans les laisser vivantes, les remettre un petit peu en question, les retravailler, les faire des petites expérimentations. Des choses qui se disaient tout à l'heure sur la question les premiers psychanalystes, Freud et consorts, ils se sont autorisés à créer des choses, sont autorisés à expérimenter, parfois quitte à se tromper. Bah oui, ça peut arriver que quand on se lance dans des dispositifs, parfois on n'en mesure pas toujours toutes les conséquences. Mais n'empêche que c'est comme ça qu'on avance. Quand on est dans des choses qui sont hyper figées, qu'on ne s'interroge même plus sur les tenants et les aboutissants, on risque de se retrouver un petit peu à tourner en rond, à répéter un prêchi-prêcha qui peut tout aussi bien être psychanalytique et qui perd de sa substance, parce que finalement, il ne faut jamais perdre de vue que l'avancée freudienne, c'est quand même une pensée qui au départ est à contre-courant, vient être un petit peu scandaleuse à certains endroits parce qu'elle remet en cause un certain nombre de présupposés sociaux, et que c'est peut-être pas plus mal à certains égards que la psychanalyse soit pas trop confortable, qu'elle soit pas trop triomphante, parce que ça oblige les cliniciens que l'on est de rester vigilants, etc., même si c'est quand même parfois compliqué de se retrouver attaqué par des dispositifs et souvent des idéologies du soin, des théories qui n'offrent guère de possibilités de penser, de prendre de la hauteur, d'avoir un peu de distance pour comprendre les enjeux. Donc voilà, la question de la psychologie clinique, c'est une question qui est compliquée dans ce rapport à la réalité, dans ses implications concrètes au niveau du quotidien. C'est que souvent, le psychologue, il est un petit peu tout seul dans une institution à devoir faire face à une direction qui a tendance à vouloir impliquer telle grille, tel processus de management, des équipes qui sont souvent un peu démunies et qui sont en quête finalement de techniques, de réponses un peu toutes faites, parfois du prêt-à-penser, dans des conditions de travail qui n'offrent pas toujours toutes les possibilités de pouvoir s'arrêter, penser un petit peu les situations, et avec des questions, on est toujours dans l'urgence, on est toujours dans des positions qui sont compliquées. Et donc, la question de la psychanalyse sur le terrain, elle est finalement... Il n'y a jamais eu d'époque où la psychanalyse en tant que dispositif a été triomphante et était la méthode principale de soins, parce que ça n'a jamais existé. Il ne faut pas non plus être dans une représentation qui soit idéalisée, soit quoi que ce soit d'autre. Il y a une époque où ces théories, ces dispositifs avec lesquels on travaille, étaient quand même la méthode de référence, et avec tout le monde qui s'improvisait, qui s'inventait, qui s'autoproclamait psychanalyste. Une des choses qu'on peut peut-être reprocher à certaines théorisations de Jacques Lacan, c'est cette idée qu'on peut s'auto-fonder psychanalyste, s'autoriser à l'être de son propre chef. Ça met parfois la question du contrôle des praticiens, parce que je crois que ce qui est important aussi à entendre, c'est qu'on est la pensée clinique reste vivante, reste efficiente, à condition qu'elle soit partagée, à condition qu'il y ait de la rencontre interindividuelle entre patients et cliniciens, entre cliniciens, entre eux. Il faut que... C'est ce que décrivait Jean-Baptiste sur la question des réunions d'équipe, avec ces questions du transfert qu'il faut rassembler dans le cadre des réunions, parce que chaque praticien, chaque clinicien au sein de l'institution n'a pas affaire à exactement la même personne. Certains vont nous dire qu'elle est agressive, d'autres qu'elle est froide, d'autres qu'elle est bienveillante. Et c'est en confrontant tous ces transferts diffractés qu'on arrive à avoir une perception un petit peu plus globale de la situation, de la personne, qu'on lui redonne un peu un statut de sujet avec toute sa complexité, toute sa réalité clinique qui peut pas se résumer à quelques traits, quelques comportements qu'on fait rentrer dans une case et auquel on va attribuer un diagnostic tout près. Voilà. La pensée clinique, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose de qui réclame quand même une certaine formation, qui réclame une certaine exigence, un certain contrôle permanent aussi. C'est qu'on a beau avoir été diplômé, on a toujours besoin de continuer à travailler, à confronter son travail dans le cadre d'une supervision, d'une analyse de la pratique, pour se rendre compte que voilà, que la compétence, on a beau la travailler, c'est jamais complètement acquis, et que même le plus compétent des cliniciens peut se retrouver en échec à certains moments, et que c'est souvent à l'aide d'autres personnes qui peut sortir un peu de son ornière. Voilà.
Je juste dire un petit mot comme ça sur la fin, que effectivement le fait d'être formé ou d'être analysé, hein, pour ceux qui ont vécu cette expérience, ne vaccine pas contre l'inconscient. C'est peut-être la particularité pour souligner quand même ce que tu dis qui est important. Ça ne vaccine pas contre l'inconscient, et ça, heureusement, hein, c'est-à-dire ça fait de nous des sujets qui ne sont pas, normés du point de vue d'une grille systématique qui listerait comme ça le comportement de la vie humaine par des traits de caractère, mais effectivement par quelque chose qui nous échappe toujours, surnoncement dont Antoine effectivement soulignait l'importance, et je crois que ça c'est réellement ce qui est à conserver peut-être dans la présentation qu'on peut avoir de la psychanalyse, parce que c'est ça qui permet d'ouvrir à une forme de créativité. Hein. Et du point de vue des pratiques, tout à l'heure en t'entendant, on pensait à ça avec Claire en se disant, mais finalement, même quand on bosse avec des autistes, par exemple, pour ceux qui appliquent les méthodes plutôt comportementales, ce qui est éminemment complexe, c'est qu'ils sont amenés à être dans une forme de pratique systématisée, hein, où on leur donne comme aux gamins un protocole, un planning à suivre, et ils n'ont aucune liberté vis-à-vis de ce protocole-là. C'est dans les cas les plus extrêmes, hein, ça peut être appliqué avec bon sens aussi, hein. Mais je crois que ce qui est important, c'est que là on s'aperçoit comment vient se dessiner dans les conduites du soignant une forme de répétition un peu en miroir du côté d'une forme de stéréotypie de la pensée, d'une stéréotypie des actes, qui n'est pas quand même sans nous faire songer aux stéréotypies des enfants autistes, et comment le processus de soins éminemment obsessionnel répète quelque chose, hein, d'un manque à habiter son discours, d'un manque à habiter ses actes, à le rendre plein de vie, et voilà, pour peut-être dire que finalement c'est la question de la créativité qui doit rester centrale dans la pratique clinique quelle qu'elle soit.
Merci à vous.